À qui le tour? Et je suis maintenant en compagnie de Marc Legras. Marc Legras, homme de télévision, de radio, journaliste passionné de chansons. La revue Chorus, il en fait partie. Et surtout, grand ami de Georges Moustaki. Moustaki, chaque instant et toute une vie. Le Moustaki, éphémère éternité. Et puis plus récemment, petit abécédaire d'un amoureux de la chanson. Voilà quelques-uns des ouvrages auxquels vous avez collaboré, Marc Legras.
Et en fait, le premier livre avec Georges Moustaki, on va être dans le propos, c'est un livre qui s'appelle Un chat d'Alexandrie. Et ce livre, on l'a fait à la fin des années 90, parce que quelqu'un lui avait proposé un livre d'interview. Et il a voulu qu'on le fasse ensemble. Et si je parle du chat d'Alexandrie, c'est tout simplement parce que c'est la ville de naissance de Georges Moustaki, qui est né là-bas dans les années 34, semble-t-il. Et donc, je risque que je suis dans le café. En fait, ça veut dire que cet enfant voit la guerre de 40 approcher d'Alexandrie, voit le désordre qui a été occasionné de 40 à 45 dans cette partie de l'Égypte. C'est-à-dire que cet enfant qui a grandi dans un creuset où on parle un peu toutes les langues de la Méditerranée, il assiste au bouleversement de cette région, y compris avec la création de l'État d'Israël peu après, et c'était quelque chose qui était important pour la communauté juive d'Alexandrie. Donc, si vous voulez, la naissance et la jeunesse et la quasi-adolescence de Moustaki, c'est quand même sur fond de guerre, sur fond de ce qui aujourd'hui appartient à l'histoire. Et si je parle d'Alexandrie, c'est qu'on y parle un peu toutes les langues du monde dans cette Alexandrie qui est un port. Dans la cour de l'école, et lui va à l'école française, bon, on parle italien, on parle grec, on parle quasiment turc, on parle tout ça, arménien, etc. Et en fait, Alexandrie, lui, donne le monde un peu en réduction. Et après, quand il va commencer à voyager, il va retrouver un peu d'Alexandrie partout, des sortes d'impressions. Il a appris le monde dans cette ville, la ville de son enfance. En plus, c'est une ville dans laquelle il vit très librement, il a un vélo, il a un petit bateau que son père a peint en rouge, au cas où il se perdrait. Donc c'est ça, l'apprentissage du monde et de la liberté, c'est Alexandrie. Et à 17, 18, 19 ans, bien sûr, il rêve de venir à Paris. Et le Paris de l'époque, qu'est-ce que c'est? C'est le Paris de l'après-guerre. C'est un Paris qui est un Paris intellectuel, avec de la littérature, de la poésie, de la réflexion, Camus, Sartre, etc. C'est un Paris, et puis la photo, etc. C'est un Paris qui nous paraît aujourd'hui très éloigné et un peu mythique. Mais bref, l'enfant d'Alexandrie rêve de ce Paris, l'adolescent. De plus, il apprend le français et dès qu'il y a des spectacles à Alexandrie de chanteurs français, il va au théâtre voir les chanteurs. Et par exemple, il a 13 ou 14 ans quand il voit Alexandrie au théâtre, Edith Piaf, il va l'écouter avec sa mère. Et pour aller l'écouter, d'ailleurs, il avait même emprunté une paire de pantalons de son père parce qu'il était encore à l'âge des culottes courtes.
Ouais. Donc, un peu plus tard, il va rencontrer Georges Brassens et c'est à lui qu'il va emprunter son prénom, en fait.
Hein. Ouais. Et donc, en 53-54, quand il arrive à Paris, bon, à ce moment-là, il vend des livres porte-à-porte, il écrit des poèmes, il rêve d'écrire peut-être un peu quelques chansons, mais toujours est-il que c'est avec ses poèmes qu'il rencontre Brassens, qui va dans une librairie qui est tenue par un parent, un beau-frère de Moustaki, et il discute avec Brassens, et il lui fait voir ses textes, et Brassens écrit une préface. Et en fait, en quelques mois, Brassens va devenir une énorme vedette, et les poèmes de Moustaki ne seront jamais publiés, donc il a gardé cette préface, comme ça, qu'il a réutilisée et qu'on a mise dans le dernier livre. Voilà. Et donc, Brassens l'impressionne, et Moustaki, c'est Youssef, c'est Giuseppe, c'est Joseph, un peu dans les langues du bassin méditerranéen, et à Paris, il choisit de s'appeler Georges, par admiration pour Brassens.
Ouais.
Georges.
Marc Legras, je vous propose de marquer une courte pause dans notre conversation, le temps d'écouter un morceau de Georges Moustaki, et puis on reprend le fil de son histoire dans quelques instants.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent, avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Le fameux métèque de Georges Moustaki, Marc Legras. Là, on est donc dans les années 50, 55, quelque chose comme ça. C'est là qu'il va commencer à rencontrer du monde et à écrire ses chansons.
Il commence par écrire pour une dame qui s'appelle Irène Lecarte, que tout le monde a oublié. Et puis après, coup de chance, il va écrire pour Piaf 5-6 chansons. Et donc, le fameux Milord mis en musique par Marguerite Monod. Mais après Piaf, il n'a pas de gens qui vont le chanter spécialement. Lui, il pense « Ah tiens, Colette Renard pourrait me chanter » ou quelqu'un d'autre. Mais il y a une espèce de période de, qui est tranquille après Piaf parce qu'il touche les droits d'auteur. Il y a une période qui est, on va dire, un peu oisive. Et à ce moment-là, il y a des gens qui vont aller prendre des chansons dans ses tiroirs. Par exemple, Hugo Frey, Montand va chanter une chanson. Pierre Colombo chantera aussi un peu. Et puis surtout, il y a Barbara. Bon, Barbara, il l'a connue à l'écuse. C'est-à-dire, Barbara n'est pas une vedette. Et avec Barbara, il va y avoir plusieurs chansons. Bon, les deux plus connues sont bien sûr « Dame Brune » et puis « La ligne droite ». Quand, si vous voulez, tout ça nous amène à la fin des années 60. Et à la fin des années 60, Reggiani, qui a déjà 40 ballets, veut entamer une carrière de chanteur. Bon, il dit qu'il est italien, que lui, il est fait pour chanter, etc. Et Reggiani enregistre un premier disque qui marche gentiment. Et à ce moment-là, Barbara dit à Moustaki, il faut que tu viennes écouter quelqu'un, c'est Reggiani. Et à partir de ce moment-là, avec, on se souvient que Reggiani a 5-6 grandes chansons qui sont signées Moustaki. Reggiani est chez Polydor et Moustaki va pouvoir enregistrer un 45 tours avec 2 titres. C'est le cadeau que lui fait Polydor. Et lors de la séance, le directeur artistique dit on pourra faire 2 de plus pour le même prix, quoi. Donc, ils enregistrent 4 chansons. Ils sortent un premier 45 tours, simple, avec 2 titres, il ne se passe rien. Et sur le deuxième 45 tours, il y a le métèque.
Le fameux métèque, voilà.
Voilà, et quand le métèque sort, à ce moment-là, du jour au lendemain, mystérieusement, c'est l'explosion. Et à ce moment-là, il peut enfin réaliser son rêve, c'est-à-dire rassembler sur un album, c'est-à-dire l'album qui s'appelle le métèque, avec la pochette grise et blanche, il peut faire réunir le joli bouquet de ses chansons. Et effectivement, quand on réécoute ce disque, il y a 6-8 chansons qui après ont été des succès, on les a en mémoire.
Oui, c'est rentré dans le patrimoine de la chanson, dans le cœur de tous les Français, ça fait partie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chanteurs d'aujourd'hui qui arriveront à passer ce cap-là, d'arriver à faire des chansons qui dureront ad vitam aeternam, comme le métèque par exemple, ou d'autres, hein, de Moustaki.
Oui. Mais aujourd'hui, on peut se le demander, parce que tout s'accélère, etc. Et puis, en ce temps-là, on était sur un temps long. C'est-à-dire sortait un album, il n'en sortait pas non plus des quantités industrielles. On vivait pendant 1 an et demi avec un album et une chanson. On avait des souvenirs heureux ou pas très heureux, mais elle nous accompagnait. Aujourd'hui, est-ce que les chansons ont le temps de se graver comme ça dans la mémoire de ceux qui les écoutent? Je ne sais pas, sûrement pour certaines personnes d'ailleurs, mais moins massivement qu'à ce temps-là, ça c'est clair aussi, quoi.
Alors, il a eu la carrière qu'on lui connaît. Il est passé par chez nous, ici, dans le sud de la France, à Montauban, par le festival Alors Chante, à plusieurs reprises. Et puis il est tombé malade, une maladie qui l'empêchait de respirer, qui a fini par l'empêcher de chanter. C'était quoi, au début des années 2000, ça, quelque chose comme ça?
Non, ça a craqué exactement en 2010. Il était déjà très affaibli. Et en janvier 2010, il a chanté à Barcelone, et au Palais de la Musique, voilà. Et au bout de 2-3 chansons, il a fallu l'évacuer. Et malgré ça, le lendemain, il avait un concert à Valence, on est au tout début janvier 2010, et au concert de Valence, il est allé, il a voulu chanter aussi. Et Valence, il a compris que bon, le public a chanté un peu à sa place, mais il a compris que l'histoire s'arrêtait, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a mesuré la gravité de son état. Bon, bien sûr, il n'allait pas bien avant, mais à partir de ce moment-là, c'est un peu l'arrêt de l'arbitre, quoi. C'est-à-dire que c'est le comédien qui meurt sur les routes, sauf qu'il ne meurt pas. Et le comédien qui craque sous le rideau de toile, comme ça, le baladin, un peu, qui est toujours en train de courir après son dessert, et puis un beau jour, il passe pépin. Bon, et bien sûr, à partir de 2010, ses proches ont été tous très inquiets, il y a eu une grande inquiétude, et surtout que, quelque part, ça n'empirait pas, mais ça ne s'améliorait pas.
Qu'est-ce que vous pensez qu'on va retenir de cet homme, de Moustaki?
Moi, j'aimerais qu'on retienne peut-être un état d'esprit, c'est-à-dire l'ouverture aux autres, c'est-à-dire le goût de la liberté, c'est-à-dire que son parti, quelque part, il n'a pas de couleur politique au fond. Son parti, c'est l'homme, c'est l'humain. J'aimerais qu'on retienne ça, et j'aimerais aussi qu'on retienne qu'il a chanté la Méditerranée dans les années 70 avec les musiques d'Adjidakis, bon, des tas de musiques. Il a célébré en quelque sorte la Méditerranée, et je trouve que cette partie du monde le mérite toujours bien, d'autant plus que pour nous qui vivons dans cette Europe du Sud, plus ou moins, la Méditerranée, hélas, à cause de toutes les guerres et du sang de la Méditerranée, mais la Méditerranée, c'est le seul contrepoids que nous, on puisse opposer à l'anglo-américanisme triomphant. Mais après-demain, ce sera peut-être les Chinois qui triompheront, j'en sais rien. Mais nous, on a une grande originalité géographique, une richesse absolue, historique, musicalement, culturellement, c'est la Méditerranée. Et Moustaki, pour moi, c'est il est également le chantre de cette Méditerranée-là.
Merci Marc Legras d'avoir été avec nous sur CFM Radio.
Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi.
Merci, au revoir.